Eh bien, rebonjour à tous et puis ravie d'accueillir donc mes invités. Il y a toujours Christiane Belleuil, directrice de la médiathèque départementale des Alpes-de-Haute-Provence, qui accompagne chaque jour donc nos conteurs et conteuses. Et puis elle est accompagnée de non pas de Rénald Fleury qui a eu un petit empêchement, mais que nous redécouvrirons dans le courant de la semaine certainement, mais de Nasser Soltani aujourd'hui. Musicien percussionniste dinois. Ravi de vous accueillir tous les deux. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Odile.
Et on va commencer par peut-être parler de ces rencontres qui ont eu lieu hier soir avec tous les conteurs, Christiane.
Alors oui, tout le monde est arrivé hier soir, sauf Rénal qui avait un concert dans le centre de la France. Et c'est comme d'habitude, avec beaucoup d'émotions, qu'on les voit arriver les uns après les autres. Alors certains se connaissent, d'autres ne se connaissent pas. Et on sait que ça va être une aventure, un partage, une vie commune pendant 10 jours. Et c'est vrai qu'hier soir, ça a été, j'allais dire, presque encore plus magique, parce que ça a démarré tout de suite, dans des complicités, dans des jeux, très, très, très chouette première rencontre.
Merci. On va donc me tourner vers Nasser Soltani, donc un musicien bien connu dans le département, mais pas seulement. Oui.
C'est ça, ouais.
Alors, et les rencontres de la parole pour vous, c'est pas nouveau. Vous avez déjà participé à ces accompagnements de conteurs.
Voilà, j'ai participé il y a quelques années, il y a 5-6 ans, quoi, aux rencontres. Avec Dominique Ottavi.
Oui.
Et les autres conteurs, évidemment, mais j'étais venu avec Dominique Ottavi il y a un petit moment, quoi. Voilà.
Oui, parce que, si vous permettez.
Oui.
Parce que, avant d'être dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, les conteurs venaient parfois avec un musicien. Et c'est à partir de la venue de Nasser, d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui s'est un peu. J'allais dire décoincé, c'est pas tout à fait ça, parce que Nasser a accompagné par hasard et par goût et par plaisir les autres très souvent, ouais. Alors qu'au départ il était dans un contrat avec Dominique.
C'est ça, voilà. Tout à fait.
Alors on va revenir depuis le début. La musique pour vous, donc ça a commencé tout de suite par les percussions. Comment vous êtes venu à la musique? Est-ce que c'est de génération en génération? Comment ça vous est venu?
Ah non, c'est pas de génération en génération. En fait, ça a commencé très tôt parce qu'en fait, je suis né à Digne.
Voilà. Oui.
Donc je suis né dans cette ville et très jeune, en fait, je me suis intéressé à la musique. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de balles de quartier. Et j'allais beaucoup voir au Palais des Congrès aussi certains, Gilbert Bécaud à l'époque, je me rappelle quand j'étais tout petit, hein, j'avais 7 ans, 8 ans. Et j'allais voir les balances de tous les musiciens des balles de quartier. Et la musique m'a toujours attiré. Voilà, donc en fait, mes premiers débuts, j'en parle pas souvent. Et aujourd'hui, je vais en parler à la radio quand même, je pense que ça fera plaisir à pas mal de gens. C'est que dans mon cursus musical, en fait, j'ai souvent omis, je pense avoir commencé, surtout quand je suis parti de Digne à la faculté, tout ça, après avoir passé le bac et tout ça, un peu plus sérieusement, en fait. Mais en fait, j'étais à la fanfare dignoise.
Ah oui.
Voilà. Donc, en fait, avec monsieur Mazzacano, qui était un personnage exceptionnel, qui avait, qui nous avait repéré, la famille Soltani, en fait, et... Donc en fait j'ai fait 4 ans de fanfare tout jeune et je défilais pour le Corso La Lavande, en tenue provençale et à la caisse claire j'étais. Donc j'étais tambour major. Voilà.
Donc déjà tout de suite l'envie de percussion,
de percuter,
ça a été le premier instrument, le tambour, la grosse caisse.
Non, moi j'étais à la caisse claire.
Caisse claire.
Alors voilà, c'est... la caisse claire en fait. Mm-hmm. Voilà. Et mon frère était à la grosse caisse. Et mon autre frère était au clairon. Il y avait pas mal de gens de Digne, de famille. Et c'est le directeur du conservatoire, monsieur Mazzacano, Ça me rappelle des souvenirs. C'est marrant et de reparler de ça. Ouais, ouais. Voilà, qui avait bien craqué sur nous et qui venait nous chercher, en fait, pour nous amener aux répétitions et tout ça, et qui nous a mis un peu le pied, enfin, le pied à l'étrier. Voilà. Ça, c'est les débuts, en fait, hein.
Et après, quels ont été les, donc, il y a eu le djembé, comment ça, comment vous êtes orienté?
Après, comment ça a évolué? C'est qu'à partir de ce moment-là, en fait, j'avais une attirance très, très forte pour tout ce qui était rythmique. Donc, j'allais voir un petit peu tous les groupes qui jouaient. J'avais pas vraiment une formation musicale au conservatoire, hein. Je participais uniquement à la fanfare dinoise. Et une fois que j'ai goûté à ça, de toute façon, après, à partir du moment où j'ai participé au lycée Alexandra Davinel, je me suis mis à faire un peu de guitare aussi. Il y avait des amis, il y avait des clubs entre midi et deux. Et une personne qui est, d'ailleurs que j'ai rencontrée, qui joue en ce moment avec Enrico Macias, pas mal gens, c'est Bruno Bongarçon.
Ah voilà.
Bruno Bongarçon qui joue un peu avec tout le monde en ce moment. Hein.
Bruno Bongarçon, alors dites-moi, est-ce que c'est lui qui était dans les... Non, je confonds avec les Forbans, pas
non,
du tout.
Non,
pas
non,
du
non,
tout
voilà,
avec les Forbans.
Voilà,
mais voilà, oui, mais je connais bien voilà, Bruno Bongarçon. Voilà. Donc il est guitariste.
Voilà, il est guitariste arrangeur, il est l'arrangeur de Enrico, entre autres, hein, mais il accompagne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens.
D'accord.
Connu aussi, enfin bon, voilà. Oui. Et donc on faisait la musique ensemble au lycée aussi. Ça, c'est voilà, c'est un souvenir. Bon, après je suis parti à la faculté à Aix-en-Provence et à partir de là j'ai pris un billet d'avion parce que je suis allé travailler. Enfin, j'ai fait une licence de socio-ethnologie et là je me suis intéressé particulièrement au continent africain. Donc là ça a été une vraie révélation. Il y a un vrai engagement par contre, corps et âme. J'ai pris un billet d'avion et je suis parti au Burkina Faso. Qui s'appelait avant de s'appeler le Burkina Faso, ça s'appelait la Haute Volta.
Et qu'est-ce qui vous a attiré là-bas alors?
Ben, c'est la culture africaine, en fait, et certaines études que je faisais à la faculté d'Aix-en-Provence. J'avais entendu parler d'un percussionniste qui s'appelait un griot, Kone Khalifa. Et j'ai eu envie d'aller le voir chez lui, quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, j'ai pris un billet d'avion. Et ce pays s'appelait, le soir à Marignane quand je suis parti, s'appelait la Haute Volta. 6 heures après, quand je suis arrivé, que j'ai débarqué sur le tarmac là-bas, hein, au Burkina Faso, ça s'appelait le Burkina Faso, il y a eu un coup d'État. Donc j'ai été assigné à résidence pendant un mois. Voilà, c'était une expérience assez exceptionnelle. Le coup d'État a eu lieu le 4 août 83, exactement. Voilà. Donc, et moi, j'étais parti dans ce pays pour travailler avec le percussionniste. Donc, ça a été un peu chaud parce que il a fallu. Voilà. Je garde un souvenir très, très présent.
J'imagine. Ouais.
On peut dire en quelle année vous êtes né?
Je suis né en 63.
63, d'accord.
Voilà. Et ça, c'était le 4 août 83. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, je suis retourné pour la fête de la Révolution. Je me suis fait des amis. Voilà. C'était Sankara, Thomas Sankara qui avait pris le pouvoir, mais avec une très très belle démarche. Voilà, donc et à partir de là, je suis allé rencontrer ce percussionniste qui, et voilà, donc où là j'ai décidé. Il m'a plutôt, il m'a formé, donc je suis allé chez lui et là j'ai commencé à travailler vraiment pas que le djembé. On commence à jouer le djembé après avoir joué certaines choses, des accompagnements, d'autres tambours qui sont des tambours d'accompagnement. Et là, j'ai mis le doigt, la main, enfin le corps en entier, quoi. Voilà. Mais là, après, je suis retourné pendant plusieurs années régulièrement pour me former, en fait, à la musique et à la danse africaine. Voilà.
Et on va donc découvrir aujourd'hui quelques instruments que vous avez amenés. Mais quand on est percussionniste, en fait, on est attiré par tout ce qui fait du rythme,
voilà,
du son.
Voilà, moi je suis attiré particulièrement par les percussions. Et les percussions, pas limitées à l'Afrique de l'Ouest, hein, où je me suis formé en fait. C'est que le rythme est joué partout. C'est un peu comme la musique. On en joue un peu dans tous les pays du monde, en fait. Et... je joue de la percussion, mais je m'intéresse donc à d'autres instruments qui ne sont pas forcément des instruments de percussion. J'aime bien ce qui relie en fait un petit peu tout ce qui touche aux éléments. En fait, les percussions sont des instruments qui nous rapprochent beaucoup de tout ce qui est l'enracinement, la terre. Et j'aime bien naviguer quand même entre la terre et le ciel, donc avec tous ces instruments, l'instrument avant, des instruments frottés, tapés, soufflés, grattés. Voilà, déjà les mots sonnent un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui j'ai amené quelques instruments, j'ai amené des flûtes aussi, parce que j'ai fait de la percussion et je me suis intéressé à tous les musiciens qui jouaient dans l'orchestre du Burkina à l'époque. Et j'aimais beaucoup les vents, donc j'aimais beaucoup tout ce qui touchait à la terre et tout ce qui touchait au ciel. Donc, et entre les deux, un peu tous les registres sonores. Hein. Voilà.
Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite, petit aperçu de ces beaux instruments ?
Voilà, je vais vous faire écouter une flûte qu'on appelle une flûte Peul, une flûte malinké, en fait, que l'on joue en Afrique de l'Ouest, et que ce sont les bergers...
Nasser Soltani, aujourd'hui dans notre studio de Fréquence Mistral, pour notre plus grand bonheur. Donc là, on vient d'écouter une flûte...
Flûte malinké, voilà. Ce sont les bergers qui jouent cette flûte en Afrique de l'Ouest. On joue cette flûte au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, voilà, principalement. Une flûte à trois trous, un peu, qui ressemble un petit peu à la flûte traversière. Voilà, décoré de cori, qui sont des petits coquillages qui protègent un peu des esprits malins.
Et bien sûr, chaque instrument a une histoire. Et alors, la percussion, oui, c'est aussi quelque chose qui raconte une histoire. Là, vous allez donc accompagner des conteurs, mais dans la percussion, il y a déjà toute... les histoires ont toujours été aussi racontées en Afrique avec des percussions aussi.
Avec beaucoup de rythme en fait. Hein. On fête beaucoup, on fête on fête les récoltes, on fête les déchets. Et la plupart des cérémonies sont accompagnées par la percussion et percussion et d'autres instruments. Avant, des chants, des danses. Le mouvement aussi, la danse, c'est très important. Est lié forcément à la percussion.
Alors, vous avez aussi amené un hang, un petit, voilà, petit format, parce que c'est un instrument magique, hein, on peut dire.
Voilà, en fait, donc c'est un instrument à percussion, donc avec des notes dessus. Mais c'est un métallophone, ce qu'on appelle la famille des métallophones. En Afrique, on utilise le balafon, qui est un instrument à lame en bois, un peu qui ressemble au xylophone. Et en fait, le hang est un petit instrument, un métallophone en métal, un instrument à percussion, un peu comme le balafon, mais de forme circulaire en métal. Donc, je vous fais écouter un petit peu.
Nasser Soltani, merci, c'est magnifique et j'aime beaucoup le fait de chanter aussi. C'est
je peux pas m'empêcher.
Ah ben oui, c'est vrai, c'est un vrai instant magique.
Voilà, c'est un instrument à percussion qui amène en fait, qui peut être joué rythmé et qui en même temps peut être joué complètement détendu, hein. Et moi, tous les instruments me font vraiment penser à la nature et aux cinq éléments, hein, vraiment que les à l'eau un petit peu. On a des sensations d'eau, de percussion, de vent aussi, zen, ouais, voilà.
Et vous avez amené, moi j'en profite, hein. Vous avez aussi amené un autre instrument. Est-ce que c'est le kalimba?
Voilà, voilà. C'est une kalimba en fait. C'est une dernière acquisition que j'ai fait faire par un luthier, mais c'est un instrument que l'on trouve dans beaucoup de pays d'Afrique, en fait, hein, pas uniquement en Afrique de l'Ouest. Voilà, celle-là, c'est une kalimba un peu basse, quoi, enfin avec beaucoup de sons.
Donc ce sont des lames métalliques, voilà. Sur du bois.
Exactement, sur un bout de bois. Là, il y a une caisse. Normalement, ça peut être posé juste sur une planche, en fait. Mmh. Et le principe, c'est un piano à pouce, voilà, en fait.
Voilà. Est-ce qu'on trouve toutes les notes?
Non.
Non.
Non, non. Il y a plusieurs accordages possibles, en fait. C'est un peu comme les harmonicas, les instruments. On peut avoir plusieurs accordages, en fait, hein, en pentatonique, chromatique. Voilà, là, c'est une sanza kalimba qui est en un ré pentatonique. Voilà, c'est un accordage.
Et est-ce que l'importance du bois aussi, est-ce qu'il faut un bois particulier ou pas?
Pas forcément. Celle-là est faite par un luthier en France. Hein. Je l'ai faite faire par un ami qui est devenu un ami, là, qui me fabrique des instruments en fonction de mes désirs et de mes besoins. Voilà, donc je viens juste de la voir, celle-là. Donc je vais vous la faire écouter un petit peu.
Avec plaisir. Thank you. Bravo. Nasser Soltani avec nous sur Fréquence Mistral. Alors on va en venir, vous parliez tout à l'heure hors antenne de la santé aussi. Vous faites de l'art thérapie, c'est ça ? La musicothérapie ?
Voilà, musicothérapie. En fait, j'interviens dans des hôpitaux depuis... cette année, c'est la 22e année, en fait. Je travaille sur des hôpitaux de jour à Marseille, avec donc des hôpitaux de jour qui sont rattachés à Édouard Toulouse, avec des enfants en particulier, et principalement avec des enfants dans les pathologies des enfants autistes qui ne parlent pas, qu'on est, voilà, et psychotiques. Donc, j'interviens sur des ateliers depuis des années, depuis la 22e année, je crois, cette année.
Donc des ateliers, c'est pas, vous leur faites pas un concert, c'est vous les...
Non, ce sont des ateliers participatifs, en fait. Ce sont des enfants qui ont des troubles vraiment, très différents selon les enfants, hein. Mm-hmm. Chaque enfant est différent. Ils ont des problèmes de langage. Mm-hmm. Certains arrivent à dire quelques mots, d'autres non. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai un petit peu ritualisé les ateliers, c'est-à-dire que il y a des instruments qui sont à disposition dans une salle avec tout le encadré par des personnels soignants, hein. Il y a des infirmières, des médecins, donc avec moi un certain personnel, et j'ai développé un genre de rituel un peu comme en Afrique, hein, comme on utilise un peu sur des cérémonies, quoi. Donc en fait, on démarre toujours par une mise en voix, donc avec les enfants qui parlent pas, ils peuvent faire c'est un son, hein. Mm-hmm. Ça fait penser un peu à la baleine, là, mais enfin, on peut faire, voilà, des sons de canard. Ça, c'est un son. Donc, j'utilise un petit peu tout ce genre de propositions qu'ils ont, sur des sons, mais sur le corps aussi, hein. Il y a beaucoup le corps. On engage tout le côté physique, déplacement dans l'espace et tout. On démarre par une mise en voix un petit peu comme ça, et petit à petit, je développe un petit peu des rythmiques, et les enfants se mettent à participer, donc, sur des balafons, différents instruments, du matériel de percussion principalement, et des instruments avant. J'utilise aussi un peu l'accordéon à bouche, enfin, l'accordéon à bouche, c'est la main droite de l'accordéon, mais qu'on souffle plutôt que de tirer sur les soufflets. Voilà, donc pendant toute cette séance, en fait, on développe un petit peu comme ça, là. Il y a un genre de rituel, et on finit toujours avec une berceuse. Chaque année, j'amène une petite berceuse. Une berceuse de Corse, une berceuse de Kinshasa, où je vais puiser un petit peu dans le répertoire mondial et mes pérégrinations de mes voyages. Donc, c'était quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
Donc ça, c'est depuis 22 ans, donc c'est énorme. Est-ce que vous avez pu suivre un peu ces enfants? Est-ce qu'ils ont pu... devenir, puisqu'ils sont plus que grands maintenant. Enfin,
ils sont grands, mais alors, moi je les ai en fait petits. Hein, les enfants ont entre 4 et 10 ans maximum, en général en hôpital de jour. Ils ne restent jamais en hôpital de jour plus que ça. Donc en l'occurrence, je suis des enfants pendant 4 à 5 ans, avec des enfants qui sont réintégrés après. Hein,
on réintègre. Et vous voyez une belle évolution avec...
Une évolution, mais surtout de communication. C'est-à-dire qu'on arrive à communiquer sur des émotions. Hein. Il y a des enfants qui... Les enfants ne parlent pas, mais un enfant, ça sourit, un enfant, ça pleure, un enfant, ça crie, un enfant, ça remue, comme tous les enfants, hein, qu'ils soient malades ou pas, en fait. Et il y a des moments comme ça de communication qui s'établissent au travers de la musique, qui réveillent en eux certaines émotions. Et l'important, c'est que les émotions soient exprimées. Et la musique est vraiment un support, très important pour eux, parce que ce sont des enfants qui baignent, qui rentrent chez eux le soir, donc qui ont aussi une culture, qui viennent de cultures différentes, de pays différents, d'où les mamans chantent, où il y a des traditions dans les maisons aussi. Qu'elle soit française ou de Méditerranée ou d'un peu partout. Donc, moi, ce qui est important pour moi, en tout cas, c'est qu'on arrive à communiquer et qu'on exprime des émotions. Mmh. Donc, en l'occurrence, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, très, très à cœur.
Et vous continuez encore aujourd'hui ?
Toujours.
Mmh.
Je ne suis pas prêt d'arrêter.
Eh oui.
Je continue toujours. Hein.
Comment vous passez vos journées? Parce que c'est de la musique dans la peau, c'est votre métier depuis.
Depuis 30 ans.
Depuis 30 ans. Mmh, mmh. Vous jouez avec différents groupes, vous intervenez dans les hôpitaux, avec des ateliers. comment vous rythmez vos journées?
Ah là là, alors ça, c'est une très très bonne question. Donc je travaille à l'hôpital, j'interviens à l'hôpital deux fois par semaine. Mmh. Après, qu'est-ce que je fais de mes journées? C'est-à-dire que je joue avec beaucoup de groupes de musique aussi qui font appel à mes services. Donc ça demande un gros travail sur soi. Mmh. Donc je passe beaucoup de temps dans un studio, ce qu'on appelle un studio d'enregistrement. Mmh. J'ai un studio avec un matériel inouï.
Ah, vous avez ça?
Depuis
vous
30 ans. Oui, je possède un endroit où j'ai tout mon matériel et où je travaille tous les jours. Le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, après les ateliers à l'hôpital, mm-hmm. je vais m'enfermer avec moi-même. Et voilà.
Donc seul, pas avec les groupes.
Pour travailler les instruments. Oui, parce qu'en fait, la musique, ça demande une rigueur et un travail. Incroyable, il faut passer beaucoup de temps à travailler. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça, dans la musique, c'est que je m'enferme avec moi-même pour travailler. Et en fait, ça demande des heures et des heures et des heures de boulot. Hein, parce que, en fait, je suis percussionniste, mais je suis arrangeur aussi. Je crée des musiques pour des danseurs, pour des compagnies de danse, mmh. pour des spectacles, pour des duos, des trios. Et voilà, entre autres. Donc, je suis obligé de beaucoup travailler et ça me plaît. Surtout avec le temps et l'âge, ça me plaît encore de plus en plus. En fait.
Et j'imagine que vous êtes très demandé. Et comment vous faites vos choix
Oui, je suis pas mal demandé. J'ai des emplois du temps. J'ai dû justement par rapport à ce temps que je passe avec moi-même aujourd'hui. La difficulté, c'est de faire le choix. Par rapport aux propositions que l'on me fait mmh. et ce temps que je peux passer avec moi-même pour travailler. Mmh. Donc la musique demande un entretien régulier. Donc je suis obligé un petit peu de faire des concessions, de refuser certaines choses. Mais j'y vais surtout au cœur. Hein. En fait, je vais au cœur et au feeling. Hein. Je travaille avec des gens... c'est un peu restrictif ce mot, les musiques du monde, mais ce qui me fait vibrer, c'est ça, moi. C'est la rencontre, donc, avec tous les pays dans lesquels j'ai voyagé, mais dans lesquels je voyage toujours, avec, en écoutant à la radio une musique d'Éthiopie ou du blues américain. Ce qui me remplit, c'est surtout ça. Donc, alors, j'essaie de trouver juste, en fait, un équilibre entre les gens qui me proposent de travailler et ce temps que je peux passer avec moi-même. Voilà. Et de préparation, en fait, hein. Voilà.
Est-ce que quand on sait jouer des percussions comme du djembé, on peut jouer des congas, on peut jouer du caron ou...
Ah non. J'ai été formé à la percussion africaine par le djembé. Donc là, c'est des années de boulot. Hein. J'ai travaillé avec des gens comme Sungalo Koulibaly, Adama Dramé, Kone Khalifa, Mamadi Keïta. Donc, ce sont des gens, des familles de griots assez connues. Et non, le djembé a une technique assez particulière. Après, moi, le djembé m'a permis d'aller m'intéresser et de m'ouvrir à toutes les autres musiques, qu'elles soient orientales, qui fait une partie de moi-même, en fait, de mon histoire aussi, de mes parents. Moi, je suis né à Digne, mais j'ai des origines aussi maghrébines. Hein, donc, je me suis intéressé à la darbouka. Mais chaque instrument, le cajon, le flamenco, je travaille beaucoup avec... En flamenco, j'adore. Donc, je fabrique aussi des cajons. Enfin, bon, tout là. Je me suis intéressé à la fabrication des instruments.
Vous donneriez pas des cours de cajon?
Ah non, c'est dur à trouver. Hein, les cours de cajon, c'est quelque chose qui est difficile à trouver. Et ouais, c'est très dur à trouver. Il faut essayer de trouver une école de danse, en fait. Parce que toutes les percussions, la plupart du temps, sont liées à la danse, hein, au mouvement. En fait, l'écriture qu'on pourrait faire de la percussion, c'est le mouvement. Ça pourrait être une partition, un corps en mouvement, que ce soit avec le djembé, le cajon, la darbouka dans la musique orientale. Tous les instruments ont une technique particulière, d'où les heures de travail. Après, le fait qu'on travaille le rythme, on a une certaine gymnastique, voilà. Mais chaque instrument a une technique. Donc,
il y a avant le cajon,
la darbuka, il y a les congas latinos, il y a les tablas indiens. Il y a tout ce qui est petite percussion, triangle, qui paraît simple et tout ça, qui demande une rigueur.
On n'a pas tellement de connaissances sur le triangle. Hein. C'est vrai que ça fait rire tout le monde.
Ça fait rire, mais je l'utilise. Moi, je l'ai dans mon... fait partie des choses que j'utilise.
Eh oui.
C'est pas forcément... Un triangle, on ne met pas forcément un seul coup dans la musique classique et contemporaine. Sur une partition, une œuvre classique. Hein. Des fois, on entend un coup de triangle. Mais le triangle, par contre, quand on le joue au Brésil, c'est... Donc, il faut le faire tourner en rythmique.
On ignore complètement ça.
Dans la musique brésilienne, dans la musique africaine, c'est un instrument d'accompagnement qui est très, très bien placé dans le registre des percussions. Niveau des aigus, avec les graves, les accompagnements, les djembés, enfin tout. C'est un instrument super.
Alors, j'ai retenu aussi que vous accompagnez la danse flamenco. Est-ce que vous connaissez Sophie Barberan à Peruy?
Non.
Qui danse, une danseuse. Bon, d'accord, mais c'était juste comme ça.
Moi, je suis basé surtout sur la région de Marseille, donc je connais un petit peu plus les gens qui sont autour de Marseille, mais je bouge beaucoup en fait. Marseille, c'est mon port d'attache. Après, je suis par monde et par vous, c'est ce qui me plaît. C'est la route et le côté troubadour, les trouvères.
Et du reste, tu te déplaces avec ta maison sur ton dos, non?
Entre autres, je me balade avec mon camping-car et mon matériel dedans l'été.
Combien d'instruments, alors, est-ce qu'on peut savoir ou c'est difficile de chiffrer avez dans votre studio chez vous?
Je pense qu'un orchestre symphonique pourrait jouer et venir sans instruments chez moi. Et oui, j'ai une passion pour les instruments, en fait.
Et oui.
J'ai une passion, mais pour pouvoir les jouer et enregistrer, parce que je prépare des maquettes, souvent, tout ça. Donc là, je me suis mis, il n'y a pas très longtemps, je me suis mis au bouzouki.
C'est quoi, ça, le bouzouki?
C'est une guitare irlandaise.
D'accord.
Mais qu'on joue en Méditerranée aussi. En Corse, on appelle ça la tchétela, un peu une dérivée.
D'accord, ouais.
On appelle la guitare
battante. On a vu ça avec Dominique Ottavi.
Dominique Ottavi, entre autres. Et il y a la guitare battante au Portugal. Voilà, ce sont des guitares à double corde. Quatre doubles cordes que l'on peut accorder dans des registres différents. Donc
à vous tout seul, vous pouvez faire un concert. Vous avez besoin de personne pour...
Mais ce n'est pas le but.
Ouais.
Ce n'est pas le but. Le but, c'est de rencontrer des gens. Tout le panel sonore, moi, me permet d'accompagner et d'être dans des couleurs. Je suis percussionniste, mais c'est un peu restrictif aujourd'hui avec tout ce que j'ai fait et tout ça. Donc, je préfère me présenter plutôt aujourd'hui, je crois que j'ai trouvé, par rapport à la peinture musicale et tout ça, comme coloriste musical. Voilà, c'est un peu moins restrictif. Et puis bon, moi je chante, je joue des flûtes, j'adore danser aussi. Je fais plein de choses. Voilà, moi depuis que je fais tout ça, cette musique en fait, il y a une chose qui est très importante, c'est que j'ai une image que j'aime beaucoup, c'est que dans la musique, quand je parlais de travail tout à l'heure, c'est qu'au plus j'apprends, au plus, j'ai l'impression d'être un bébé tout nu, en fait, de rien savoir. Et ça me remplit énormément. Parce que je suis obligé de travailler toujours une technique, un nouvel instrument. Et j'ai l'impression de... Je joue des instruments, mais voilà. Cette image du bébé qui se retrouve tout nu, au plus j'apprends, au moins je sais deux choses. Ça me correspond bien.
Alors, toute cette semaine, vous allez accompagner les conteurs. Comment vous vivez ça? Est-ce qu'il faut d'abord entendre l'univers du conteur avant de rentrer vous êtes compositeur à ce moment-là?
Oui. Mais là, la rencontre s'est effectuée hier déjà. Ils sont à l'arrivée. Hein, on rencontre des personnes qui le rencontrent. Une rencontre autour d'une salade, dans la parole déjà. Dans la parole, il y a une musique. Il y a une personne qui habille cette parole, et en fait c'est le cœur, quoi. Je veux dire, c'est l'écoute, en fait. On va se rencontrer, on va passer du temps ensemble, donc on va essayer de voir comment se trame l'histoire que le conteur a envie de raconter. Et moi, je vais essayer, par rapport à cette parole, je vais essayer d'accompagner cette parole, de la souligner ou de la ponctuer. Voilà. En fait, j'aime accompagner, quoi. Accompagner. C'est un mot qui est important aussi pour moi, ça.
Et c'est riche de rencontres, puisque vous allez rencontrer... vous avez rencontré des personnages hors du commun, on peut dire. Enfin, ils sont tous habités par cette même passion de communiquer aussi.
C'est ça. Et des gens très différents. des gens qui ont toute une histoire, des histoires racontées.
Mais c'est ce qu'on essaie dans le cadre de la programmation des rencontres de la parole, c'est de panacher les univers, justement, de ne pas être simplement, de ne pas faire une promenade dans un continent ou dans une culture, mais plutôt de provoquer ces rencontres-là. Et je crois que jusqu'à présent, on a toujours jonglé comme ça. Hier, il y a Marc Bulléon qui me disait, mais tu dis que tu n'es pas programmateur, mais comment tu fais pour mettre... Et je lui ai répondu, je ne sais pas comment je fais. En fait, ce que je veux, c'est panacher des univers, faire se rencontrer des cultures et provoquer que les petites étincelles que nous avons tous en nous fassent quelque chose. Nasser parlait des éléments, hein, de ces rencontres-là. Pour moi, c'est exactement ça. C'est faire, c'est provoquer les rencontres et puis... Et puis peut-être faire que les gens comprennent un petit peu mieux, un petit peu plus, l'importance d'aller à la rencontre de l'autre. À cause d'y, aurait dit ma grand-mère.
Pour revenir encore au conte, est-ce que vous avez, ça vous donne envie d'écrire aussi des mots, des contes ou des chansons? Vous faites ça aussi?
Je fais. Là, je suis en train de travailler, en fait, depuis pas mal de temps, mais à mon rythme, en fait. Parce que j'ai des moyens d'enregistrer tout ça. Je travaille sur un album solo, en fait. Voilà.
Ça
va être un album qui va être chanté, joué par moi.
Et ça va être une première?
Ça va être une première parce que ça va être un album que je vais faire, un album que j'aimerais faire illustrer avec des histoires, donc des rencontres avec des gens, des plasticiens, pas des, voilà, et que j'aimerais qui serait un spectacle, en fait, pour comment dire, jouer sur scène. Donc c'est un album qu'on peut écouter à la maison. C'est pour l'instant, j'ai un petit titre provisoire, Voyage au pays des rythmes et des sons, voilà. C'est pour lui donner un titre provisoire avec tout le panel de d'instruments, mais donc qui serait chanté et qui serait, comment dire, en direction d'un public jeune public. Donc en fait, pour montrer aux enfants, en fait, aux enfants, mais quand je parle de public jeune, des enfants, je pense surtout aux grands enfants, hein, que nous sommes tous, j'espère, oui, et que nous arrosons tous les matins quand nous nous levons. C'est faire découvrir un petit peu les univers sonores et montrer aux gens comment on peut jouer de la musique avec pas grand chose, hein, avec la bouche, avec les mains, avec le corps, tout ce qui est les rythmes au niveau de la voix. Voilà, ça serait en fait un album avec une illustration, une histoire qui raconterait un petit peu l'histoire de ces instruments et de ces continents, de ces pays qu'on peut traverser et donc chanter. Et voilà, donc en fait, mais bon, il n'y a pas de... C'est un projet sur lequel je travaille à mon rythme.
Bon projet, et alors, oui, à votre rythme, ça veut dire qu'il n'y a pas de date fixée pour... Vous nous tiendrez au courant, bien sûr, de l'évolution. Est-ce que vous avez fait d'autres albums? Donc celui-là, ça sera une première, parce qu'en solo complet, mais voilà. Sinon, on peut trouver des enregistrements. Vous avez un site, j'imagine?
Voilà, sur Internet, hein, oui. Nasser Soltani, oui. Sur Google, il y a beaucoup de pages. de gens avec qui je travaille, d'albums, j'ai fait beaucoup d'albums, j'ai fait beaucoup enregistré, beaucoup avec des Corses, des groupes Corses, qu'on fait appel à mes services pendant plusieurs années, hein, j'ai navigué beaucoup entre la Corse et autrement, je travaille beaucoup dans la musique africaine, donc avec des artistes comme Chebli, voilà, avec qui je tourne pas mal dans le monde en fait, hein. On voyage beaucoup, on joue beaucoup. Je joue beaucoup à Paris avec lui, donc, et là je rencontre un peu tous les musiciens de la musique africaine. J'ai travaillé avec Michelle Fernandez, qui est une chanteuse aux influences espagnoles. J'ai Pedro Aledo, j'ai fait des albums. Cinquillo, quoi d'autre? Oh, il y en a beaucoup, je ne l'ai pas tout en tête en fait, mais j'en fais beaucoup. J'en fais 6-7 d'albums à peu près par an, avec des artistes différents.
Et ça, c'est indiqué sur votre site, tous les albums où vous jouez.
C'est ça.
Je suis vraiment ravie que vous soyez venu jusqu'à nous ici à Fréquence Mistral. Et je serai ravie, bien sûr, de vous découvrir avec les conteurs.
Mais ce soir à Barcelonnette, quand même.
Ce soir, donc, c'est Alain Lamontagne. Il va l'accompagner.
Nasser Soltani et Rénal Fleury.
Donc ils seront trois.
Ils vont être deux et un. Parce que comme ils ne se sont pas encore rencontrer en création. Mm-hmm. Ouais. Ils feront une première partie musicale et Alain prendra le spectacle après, son spectacle à lui.
Ah oui, ils vont pas se greffer sur le spectacle d'Alain,
ce soir,
qui est déjà qui est déjà aussi très musical avec Alain Lamontagne.
Mais si tu avais assisté à la discussion hier soir, je pense que ça nous promet des
belles
surprises
soirées
extraordinaires et de belles soirées.
Ouais. Ah là là, comment on va faire pour pouvoir... C'est vrai que moi, je regrette toujours que ce soit disséminé un peu loin dans le département. On aurait envie que ça se passe ici aussi, quoi.
Non. C'est le but, c'est aussi de faire découvrir des villages, de faire rencontrer des bibliothèques, etc. Et puis de mettre les bibliothèques en lumière, parce que ce sont quand même des lieux de vie, d'éducation citoyenne. Et peut-être que c'est notre façon à nous de lutter contre la violence et contre l'imbécilité. Voilà. Pardon.
Donc ces rencontres, c'est à destination des bibliothèques, mais aussi du public. J'espère qu'il va y avoir du monde.
C'est pas à destination des bibliothèques.
Oui.
C'est que les bibliothèques sont les chevilles ouvrières de cette manifestation dans l'accueil qu'elles font pour les rencontres. C'est ouvert au plus grand nombre. Hein. Mm-hmm. C'est gratuit, c'est libre, c'est en plein air, voilà. Mais lorsque je parle des bibliothèques, c'est montrer que les bibliothèques travaillent autrement.
J'aimerais beaucoup déjà vous remercier d'être venu et dire à tout le monde donc on peut vous retrouver déjà dans les rencontres de la parole ce soir à Barcelonnette et puis tous les autres soirs. Donc allez voir le site de la médiathèque pour avoir les dates, bien que j'en parle régulièrement sur notre antenne. Et puis merci beaucoup Nasser Soltani, et puis si vous pouviez nous faire quelques petites notes pour conclure.
Merci à vous.
Au revoir.